Ce samedi 13 mars, c'est l'ouverture générale de la pêche. Une date très attendue, puisque c'est aussi l'ouverture de la pêche à la truite. Pour l'occasion, nous sommes allés rencontrer un passionné de pêche pour savoir comment il prépare cette ouverture. Rencontre avec Clément Mazouffre, passionné de pêche, facteur de canne et président de l'APPMA des Moutiers.
Il y a combien de poches dans ce gilet ?
Énormément. Des fois trop. C'est bien le souci, on en veut toujours plus, mais après on s'y perd. APPMA, c'est Association agréée pour la protection du milieu aquatique. Donc à Moutiers, son autre nom en fait, c'est l'APPMA de la Pelaude, tout simplement. Et donc on regroupe, donc on a notre bureau, un conseil d'administration, bien sûr, comme toute association, et nos adhérents. L'année dernière, on était à peu près 500, tout confondu, 500 cartes de pêche prises sur l'APPMA, ce qui n'est pas négligeable, en sachant qu'on a quand même à peu près un tiers qui reste des cartes journalières hebdomadaires, donc plutôt des vacanciers plutôt que des adhérents locaux, on va dire. Même si depuis quelques années, on remarque, et tant mieux pour nous, c'est sûrement aussi un avantage des travaux faits par notre association, on a quand même environ 30% de cartes extérieures au département. Donc Corrèze, Creuse, on a un peu de l'Indre aussi. Donc du coup, on a vraiment des cartes un peu réparties sur tout le territoire.
Vous êtes aussi facteur de canne.
Alors tout à fait. Du coup, je suis facteur de canne professionnel. Donc ce qui veut dire qu'en fait, je suis créateur et monteur de canne, notamment à mouche et canoleur. Donc par exemple, tout ce qui va être canne à truite, c'est un exemple. Après, fin d'année, ça va plutôt se diriger vers des cannes gros carnassiers, donc notamment cendre, perche et brochet, bien sûr. Un peu de silure, mine de rien. Comme c'est un poisson qui arrive quand même dans le département, je commence à avoir un peu de demande. Après, voilà, facteur de canne, c'est se faire plaisir. C'est faire plaisir à mon client parce qu'il va me demander quelque chose de très particulier souvent. Une poignée avec une forme bien particulière, une couleur particulière, des anneaux particuliers, une action de canne particulière. Voilà, c'est un ensemble de petits points qui font que ce sont des cannes uniques. C'est du sur-mesure, vraiment du sur-mesure.
Et bien sûr, amoureux de la pêche.
Et tout à fait, forcément, puisque voilà, j'ai eu ma première canne dans les mains à l'âge de 3 ans, donc ça commence à dater un petit peu, et tous les ans, je ne manque pas de prendre ma carte de pêche, généralement bien avant l'ouverture, et du coup, en fait, je peux pratiquer toute l'année, puisque les cartes commencent à être disponibles aux alentours du mois de décembre pour l'année suivante. Donc en fait, je finis ma première carte et dès le 1er janvier, je peux me remettre à pêcher. Ce qui fait qu'en période de fermeture, on peut avoir... La fédération a ouvert un super réservoir de pêche à la mouche. Étant passionné de mouche, en fait, je peux pêcher à la mouche toute l'année. Au final, puisque le réservoir est ouvert pendant les périodes de fermeture de truite. Donc quand la truite est ouverte, je peux aller sur de la rivière classique, notamment la Vienne sur Moutiers, faut pas se cacher. Et puis après, je peux aller en réservoir si l'envie me prend, ou alors si j'ai envie de taquiner un autre poisson, parce que après je vais assez régulièrement sur Vassivière pêcher le brochet à la mouche aussi. Mouche, leurre, après voilà, tout dépend de la technique que j'ai envie d'utiliser au jour J et de ce qui potentiellement peut marcher selon les conditions climatiques.
Ce samedi 13 mars, c'est l'ouverture générale, dont l'ouverture de la truite. Beaucoup de gens l'attendent et on s'y prépare et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors vous, comment vous y préparez ?
Alors, moi en fait, je me prépare bien en amont, mine de rien, parce que pour schématiser un peu, en fait, le jour de la fermeture de la truite, je pense déjà à la prochaine ouverture. Tout simplement parce que je suis complètement mordu de ce poisson. J'ai continuellement envie d'aller le chercher et l'observer, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la pêche, c'est pas simplement être au bord de l'eau, essayer d'attraper un poisson avec une canne. Moi, la pêche, pour moi, c'est un ensemble de choses. C'est tout simplement l'observation du milieu. Je prends autant de plaisir en fait à observer le milieu, à regarder une rivière courir, à chercher les poissons juste visuellement qu'à les pêcher purement et simplement. C'est d'ailleurs pour ça du coup que je suis impliqué dans la PPMA, parce que c'est aussi quelque chose qui met en rapport avec la pêche, mais d'une façon complètement différente. sur quelque chose de différent. Après, voilà, la pêche, donc j'y pense. Je pense au coin que je vais commencer à pêcher dès l'ouverture. Quelle technique je vais pouvoir utiliser? Alors, depuis quelques années, en fait, le problème se pose un peu moins. Je prépare plusieurs cannes pour plusieurs techniques. De la mouche, ça, je ne peux pas m'en passer. De la pêche au toc et de la pêche au leurre. Grosso modo, ça va vraiment être les trois grosses techniques que je vais pratiquer à l'ouverture. Après, le matin du jour J, en fonction des conditions, surtout quand on va monter un peu sur le plateau, quand il y a les grosses gelées matinales, il y a des techniques, c'est pas la peine de l'utiliser le matin de bonne heure. On sait qu'il faut attendre quand même quelques rayons de soleil, notamment voilà, la mouche, ça va plutôt être entre midi et deux. Donc généralement, ma journée se déroule avec pêche au toc le matin, pêche à la mouche entre midi et deux, et souvent du leurre pour l'après-midi. En sachant que, bien sûr, j'utilise pour ces journées-là des hameçons sans ardillon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise souvent des hameçons simples, avec un hameçon où il n'y a pas cette partie en fait, qui retient le poisson, qui l'empêche de se décrocher. Beaucoup de personnes pensent qu'on décroche énormément de poissons. Si c'est bien utilisé, pas du tout. Il suffit juste de garder un minimum de tension dans le fil, et en fait, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on pêche. Tout simplement parce que même un hameçon sans ardillon n'empêche pas de décrocher un poisson. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, il va y avoir la préparation du matériel. Donc généralement, je m'y prends quand même un peu en avance. Là, à l'heure actuelle, j'ai quand même quelques cannes qui sont déjà prêtes. L'envie était trop forte. Alors des fois, le soir, je descends, je prends 10 minutes, et puis bah, du coup, je prépare une canne. C'est vite fait quand on a l'habitude, mais il va m'en rester quelques-unes à préparer maintenant.
Pêche à la mouche, pêche au toc ou pêche au leurre, c'est les trois options pour pêcher la truite. Parce que la pêche à la main, d'ailleurs,
c'est interdit.
C'est interdit. Et, oui. Et donc, comment ça marche? C'est quoi les différences entre ces types de pêche?
Alors, du coup, c'est trois pêches complètement différentes. Vraiment avec des esprits complètement différents. On a donc, alors on va commencer par la première qui me tient à cœur, la pêche à la mouche. Donc la pêche à la mouche, c'est des cannes qui sont très particulières. Bien sûr, comme beaucoup d'autres techniques, vous avez plusieurs longueurs. Soit des cannes très courtes pour des petites rivières, soit des cannes plus longues pour des rivières qui peuvent être très larges, comme par exemple la Dordogne ou la Touvre en Charente. On va utiliser donc des cannes qui sont très souples par rapport aux cannes d'autres techniques, qui vont permettre de lancer en fait une soie avec un bas de ligne derrière. On appelle que drap. Donc en fait, c'est souvent des bas de ligne dégressifs, avec des nylons dégressifs. On part par exemple d'un 50 centième pour arriver à un 12. En fonction des poissons bien sûr recherchés, on adapte les diamètres des fils. On va utiliser des moulinets qui sont relativement simples, des moulinets à tambour tournant, donc sur lesquels on va retrouver un backing tout au fond qui protège la soie du fond du moulinet. Une soie avec des profils différents, donc c'est-à-dire en fait des formes différentes, qui seront bien sûr adaptées aux cannes. Et bien sûr, de différentes tailles. Puis ensuite, notre badline. Donc l'ensemble est mis sur un moulinet à tambour tournant. Donc avec une utilisation très très simple. Hein. C'est ni plus ni moins avant, arrière et un frein. Frein qui nous servira très peu sur le plateau parce qu'on n'a pas des truites qui sont énormes. Et donc on a très rarement besoin du frein dans cette technique. Ensuite, on va pouvoir trouver d'autres techniques de pêche, comme par exemple la pêche au toc. Donc ça, c'est sûrement une des pêches les plus répandues, voire la plus répandue. Donc on va trouver plusieurs types de cannes, alors toujours de différentes longueurs en fonction des milieux qu'on va vouloir pêcher. Là, la canne que j'ai, c'est une canne type anglaise, donc à emmanchement avec trois brins. Canne de 3,90 m, moi ça me convient très bien. On trouvera aussi des cannes téléréglables. Donc en fait, ce sont des cannes télescopiques que l'on va pouvoir régler à la longueur souhaitée. Donc c'est très pratique sur des milieux particulièrement encombrés où on a des difficultés à pouvoir bouger. Par exemple, dans un sous-bois avec des ronciers, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir une canne qu'on va pouvoir passer de 4 mètres à 1,20 m pour bouger après une fois qu'on a fait son poste de pêche, plutôt qu'une canne de 4 mètres qu'on ne pourra pas démonter ou alors qu'il faut complètement démonter en morceaux pour pouvoir repêcher plus loin. Et là, ça devient compliqué. Donc c'est soit une envie, soit une habitude. Après, c'est au pêcheur de déterminer. Pour ce type de canne, on va pouvoir utiliser deux types de moulinets. Soit un moulinet dit spinning, en fait. Donc, c'est un moulinet très courant, c'est un moulinet classique avec une manivelle, un pick-up. Donc, ce petit système-là. Ou alors, bien sûr, des moulinets à tambour tournant, en fait, les mêmes moulinets que pour la pêche à la mouche. Grosso modo, c'est à peu près le même type de moulinet qu'on pourra utiliser au TOC. D'ailleurs, on voit de plus en plus de personnes utiliser tout simplement un moulinet à mouche avec différentes bobines pour monter sur une canne au TOC. Et ensuite, on trouvera alors un autre type de canne, des cannes canoleurs. Donc des canoleurs, c'est ce qu'on appelle aussi des lancers, hein, tout simplement. Donc c'est des cannes avec des puissances différentes et des longueurs différentes, encore une fois. Souvent, pour la tweet, des petites puissances, 2 à 10 grammes, ça reste un passe-partout. On trouve souvent des cannes ultra légères qui peuvent faire 0,5 à 5 grammes, donc vraiment pour des tout petits leurres. Avec des cannes comprises entre 1,50 m et 2,20 m, on va dire, sur les plus grandes qu'on peut avoir. Après, bien sûr, on a toujours des exceptions avec des cannes plus ou moins longues. Donc sur ces cannes, on va avoir souvent maintenant, sur les cannes modernes, des anneaux très rapprochés pour permettre une meilleure glisse et une meilleure action. Un moulinet, alors dans ce cas-là, des moulinets spinning, purement et simplement, avec dessus soit un nylon classique, fil nylon, que tout le monde connaît, ou alors des tresses. Sur l'exemple que j'ai là, moi, c'est une canne équipée en tresses, donc elle est plutôt typée sur des rivières assez larges et pas trop étroites, tout simplement parce que la tresse sur des petits ruisseaux ne sert à rien. Les tresses sont très utiles pour certains leurres et des rivières un peu plus larges, tout simplement parce qu'elles n'ont aucune élasticité. Donc, on ressent tous les mouvements de notre leurre et éventuellement les touches de poisson. Donc sur ce point-là, c'est très intéressant. Donc voilà, une canne, donc un lancer, un moulinet spinning, l'équipement et après un leurre. Donc dans les leurres, c'est pareil, on va retrouver notamment trois grandes familles de leurres. Des leurres souples, donc en fait ce sont des tout petits leurres en plastique souple. Des leurres, donc ce qu'on appelle des poissons nageurs, que beaucoup de personnes appellent encore des rapalas, puisque c'est la marque d'origine. Donc du petit poisson nageur, qui va plus ou moins profond dans la couche d'eau, et tout simplement de la cuillère, la bonne vieille cuillère, mais qui fait toujours ses preuves et qui souvent donne les meilleurs résultats. Donc concernant la pêche au TOC, le montage en fait est un montage relativement simple, puisqu'on va avoir soit un montage avec uniquement des plombs et un hameçon, soit un montage avec des plombs, un hameçon, et ce qu'on appelle un petit guide fil. Donc c'est ni plus ni moins un petit repère coloré hein, qui se met sur le fil, alors qui ne doit pas rentrer dans la couche d'eau pour éviter d'être vu par le poisson. Donc c'est un montage très très simple. Sur l'hameçon, on va retrouver plusieurs types d'èches possibles. En grand classique, on va trouver le ver de terre, alors, ver de terreau, ver de fumier, tout ce que vous voulez, les vers relativement classiques. Des teignes, pour certains pêcheurs, qui sont de plus en plus nombreux, mine de rien. On peut aussi retrouver sur les pêcheurs qui observent et qui connaissent bien leur rivière, souvent, des pêches avec des insectes de la rivière en elle-même. Donc souvent, le pêcheur va aller au bord de l'eau, va retourner une pierre. S'il trouve un insecte typique et endémique de la localité, il va pêcher tout simplement avec. On peut le voir notamment, alors surtout dans les périodes où ça va se réchauffer, on a un petit insecte qui s'appelle le portefaix, ou le porte-bois, hein, selon les régions. Et donc cet insecte est particulièrement apprécié des truites, et moi je l'utilise personnellement assez souvent quand j'en ai la possibilité. Alors, il y a deux types de truites, faut pas oublier. Il y a vraiment deux types de truites, et du coup, indirectement, deux types de pêcheurs. On va retrouver dès l'ouverture, en fait, des vraies truites fario, que nous, on va avoir sur le plateau, qu'on va avoir voilà, sur la Vienne, sur la partie amont, sur tous les petits ruisseaux. On va retrouver de la vraie fario, de la vraie souche endémique, de la truite qui est née ici, qui vit ici, qui se reproduit dans la rivière, qui se reproduit dans son milieu. Au contraire, quand on va retomber sur certaines zones, alors attention, je schématise, par exemple vous allez sur Limoges, moi personnellement je connais quelques coins où il y a encore de la truite fario et peu de personnes le savent, ou alors peu de personnes veulent le croire, pourtant c'est le cas. Après on a beaucoup de parcours loisirs, alors par exemple vous en avez un pas loin d'ici, sur la Bouillance, tout simplement c'est un parcours en fait où vous allez avoir des déversements réguliers de truite arc-en-ciel, donc c'est de la truite d'élevage, tout simplement. Alors c'est pas du tout le même type de pêche. La truite fario, c'est ce que j'expliquais, c'est des techniques assez recherchées, assez délicates. C'est ni plus ni moins de la chasse. Hein. On chasse un poisson. Au contraire, la truite arc-en-ciel, c'est de la pêche beaucoup plus tranquille, parce qu'on va en retrouver en étang, alors qu'on ne retrouvera jamais de la truite fario en étang, c'est exceptionnel. Voilà, c'est vraiment une pêche particulière, où les pêcheurs souvent vont faire des pêches posées, vraiment assis au bord de l'eau, et vont attendre tout simplement avec une canne, un flotteur, un hameçon, et puis mort ce qui mord. Donc c'est vraiment deux pêches bien différentes. Moi personnellement, je suis fan de la fario, parce que c'est un milieu que j'adore, et que c'est cette passion, et cette passion ça prend aux tripes, tout simplement. C'est l'envie d'aller marcher au bord de l'eau, de découvrir, de redécouvrir, parce que mine de rien, il y a des parcours que je fais depuis maintenant presque 30 ans. Et chaque année, mon parcours évolue. Alors, il évolue pour plusieurs raisons. Il évolue parce que le poisson lui-même évolue, et il évolue parce que le milieu se modifie. On va avoir des zones qui étaient très propices à la truite, et suite à une arrivée de sable ou un arbre qui est venu encombrer la rivière, par exemple, on va avoir un poste qui s'est décalé, un poste qui n'existe plus, de nouveaux postes qui sont créés. C'est pour ça que, du coup, le rôle des APPMA est là aussi pour entretenir le milieu. Donc nous, par exemple, cette année, sur la Pelaude, on a décidé, à l'AG qui s'est tenu il y a moins d'une semaine, de tout simplement se répartir en groupe et d'aller pointer sur une carte IGN tous les arbres morts tombés dans la rivière pour, si besoin est, et généralement c'est le cas dans 99% des cas, mandater une entreprise pour aller les enlever. Tout simplement pour garder cette continuité écologique dans le milieu et éviter que la rivière soit dégradée suite à une chute d'arbre. Ça serait quand même bête de perdre une magnifique rivière juste parce qu'un arbre est tombé et qu'il empêche la remontée d'un poisson qui va entraîner un amas de sable au fond de la rivière, alors que ça ne devrait pas parce que c'est de l'eau courante, qui va entraîner un envasement éventuellement. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Il faut vraiment se plonger un peu dans l'étude de la rivière pour s'en apercevoir et en prendre conscience.
Alors, il n'est pas trop tard pour prendre sa carte de pêche ?
Non, tout à fait.
Comment ça se passe, les cartes de pêche ?
Alors, les cartes de pêche, vous avez en fait trois moyens de prendre votre carte de pêche. Alors, premier moyen, c'est d'aller directement à la fédération départementale. Ils vous la feront sur place, ils vous l'imprimeront, vous ferez le règlement. Le deuxième moyen, c'est bien entendu d'aller chez un dépositaire de l'APPMA, d'une APPMA. Donc moi, le seul conseil que je peux donner, c'est d'aller chez un dépositaire de l'APPMA dans laquelle vous allez pêcher le plus régulièrement. Après, je sais que c'est pas toujours simple. Mais le moyen le plus rapide et le plus simple de prendre votre carte, c'est tout simplement Internet. Maintenant, on a une société qui est très axée sur le digital. Bien entendu, tous les sports s'y mettent. Donc, vous allez tout simplement sur le site carte de pêche. Vous créez votre compte. Vous sélectionnez le type de carte que vous allez avoir. Parce que, bien entendu, il y a plusieurs types de cartes. Vous avez automatiquement un fichier PDF qui est généré une fois votre paiement effectué. Vous pouvez télécharger ce fichier. Vous l'imprimez. Donc, vous avez votre carte en physique, en version papier, que vous pouvez bien entendu réimprimer à volonté. Donc moi personnellement, je sais que j'imprime toujours 7 ou 8 cartes, 7 ou 8 exemplaires. J'en ai un dans ma voiture, j'en ai un dans mon gilet, un dans un sac à dos, comme ça je suis généralement sûr de l'avoir sur moi. J'en garde bien entendu une dans mes papiers avec mon permis de conduire et ainsi de suite pour toujours avoir une trace. Mais du coup, j'ai aussi une trace numérique puisque j'ai le fichier PDF sur mon téléphone portable. Donc en cas d'oubli, ça peut toujours servir. Donc n'hésitez pas à imprimer. Bien entendu, si jamais un jour vous deviez perdre votre carte, que vous n'avez pas de moyen de réimprimer, vous revenez auprès du dépositaire de la fédération ou de quelqu'un qui ait des droits d'administrateur, et bien entendu, la carte, on peut la réimprimer à volonté.
Clément Mazouffre, merci.
De rien, avec grand plaisir.
Et le mot de la fin, ce serait...
Prenez du plaisir et bonne ouverture à tous.